ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone. Il fait grand jour dehors, la lune est déjà dans vos oreilles sur 93.8 MHz. Au programme ce soir, eh bien, dans quelques instants, les informels, les nouvelles sur Radio Pleine Lune, suivi du Memento de Marjolaine, les rendez-vous qu'elle vous a concoctés, ses coups de cœur de la semaine. Ensuite, les rendez-vous politiques et sociaux. À 20h, musique, musique de femmes. 21h, une retransmission d'une conférence de la psychiatre Christiane Olivier, auteur, entre autres, des enfants de Jocaste, sur le thème de l'adolescence. Un sujet brûlant, un sujet qui nous touche de très près, nous qui sommes des mamans d'adolescents. Alors, restez à l'écoute. Et puis, à 22h, un concert d'une formation de jazz contemporain, une formation de femmes, le groupe Hatshepsut, avec à la batterie Aldridge Hansberry. Beau programme donc pour la soirée, restez à l'écoute. Dans quelques instants, c'est les informels. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, nos nouvelles. En France, les élections confirment la déroute des partis de gauche, des partis socialistes, écologistes, partis communistes. Mais les grandes perdantes de ces élections ont été avant tout les femmes. Combien de députés dans l'Assemblée sortante ? À peine 33 sur 177 fauteuils, soit environ 5,7%. Seule la Grèce fait pire dans la communauté européenne. Combien dans la prochaine assemblée ? Probablement beaucoup moins. On ne peut pas vraiment dire que les mecs ont poussé l'autre sexe sur les tremplins électoraux. Les femmes ne constituent qu'un petit cinquième des candidats, 19,6%. Et la proportion varie bien sûr selon la couleur politique. Dose féminine homéopathique à droite, entre 6 et 7% pour le RPR et l'UDF, un peu plus à l'extrême droite, avec 8% chez Le Pen. La même chose d'ailleurs au Parti Socialiste, 8,3%, Parti du Progrès pourtant. C'est un peu mieux dans les petites formations, comme les Verts, qui ont 16% chez les de femmes, et chez les communistes, avec 13%, Génération Écologie va avec 19%. Mais ça ne veut rien dire non plus en ce qui concerne la représentation des femmes ensuite à l'Assemblée, puisque comme le note une députée PS, Françoise Gaspard, plus une formation a de chances d'avoir des élus, moins elle investit des femmes. Elle a d'ailleurs présenté un rapport sur le sujet le 8 mars lors de la journée des femmes. Preuve par l'extrême, les trotskistes de la Ligue communiste révolutionnaire ont 30% de candidates. Que se passe-t-il donc ? Il faut dire que les femmes jouent en France aujourd'hui un rôle sans comparaison avec ce qu'il était auparavant. Mais ce progrès s'est largement limité à la société civile, la politique et toute une autre paire de pantalons. Bien sûr, il y a des exceptions. Entre autres, les socialistes ont essayé de faire un peu mieux en plaçant Martine Aubry à l'emploi, Elisabeth Guigou aux affaires européennes et Ségolène Royal à l'environnement. Ces trois femmes comptent parmi les ministres les plus efficaces. Mitterrand a même essayé d'innover en nommant pour la première fois une première ministre, Edith Cresson. Mais quelles que fussent les maladresses de celle-ci, la manière dont elle a été lâchée par ses camarades après sa destitution est une belle démonstration de machisme. Aux hommes, la politique pardonne, aux femmes, jamais. Il s'est d'ailleurs passé la même chose du côté droite avec l'éviction de l'ancienne ministre Michèle Barzac qui avait osé remettre en cause la politique du RPR. Elle a été rejetée dans les oubliettes. Sur notre dossier, ah, quelle est belle l'Europe. Parlons d'une jeune femme, Françoise par exemple. Françoise qui travaillait sur une chaîne de montage dans une usine de confection, l'usine Vetsou, installée dans une petite ville de la Creuse. Eh bien, le 30 novembre 92, elle a reçu sa lettre recommandée où elle se faisait signaler son licenciement. En effet, la direction du groupe avait envisagé de transférer la production de la Creuse en Pologne, où, dit-elle, ils nous ont expliqué qu'avec notre salaire, ils pouvaient payer 5 ouvrières en Pologne. Bien sûr, Françoise ne regrette peut-être pas trop son travail, qu'elle détestait, un travail trop dur. Je les détestais, disait-elle, il m'a trop cassé, j'y ai laissé toute ma personnalité et trop longtemps je me suis sentie nulle de m'être accrochée à mes 4700 francs et de ne pas avoir eu le courage de décrocher. Mais le licenciement, c'est très dur, c'est un choc dans une vie. Depuis, elle se pose avec angoisse la même question, quand on a fait tous les jours un boulot aussi routinier et avilissant, est-ce qu'on est capable à 42 ans de faire autre chose ? Au Japon, la Cour suprême juge légale la censure des livres scolaires. C'est une ténace bataille en faveur de la liberté d'expression qui a été perdue le 16 mars devant la Cour suprême japonaise. Celle-ci a jugé que la censure du contenu des manuels scolaires par le ministère de l'Éducation nationale n'était pas inconstitutionnelle. Cette affaire remonte à presque 28 ans avec le procès qu'a instauré un instituteur appuyé par tout le syndicat des enseignants qui s'élevait contre la réécriture des livres scolaires par l'administration qui tend à présenter de manière édulcorée certains événements historiques. Ainsi, l'invasion japonaise de la Chine était-elle présentée comme l'avancée en Chine ou la destruction de la ville de Nankin qui fut plus de 100 000 morts est présentée comme l'incident de Nankin. Toutes les références aux expériences biologiques sur des êtres humains menées par une unité spéciale de l'armée impériale sont bien sûr complètement disparues. Au moment où se pose avec beaucoup de prégnance la question des soi-disant femmes de réconfort, comme les appelaient les Japonais, ces femmes contraintes de se prostituer par l'armée japonaise, cet événement et cela réveille les mémoires. Ce jugement ne peut qu'inciter à s'interroger sur la volonté de Tokyo de regarder le passé en face. Au Salvador, l'Assemblée nationale a décidé par une procédure d'urgence d'imposer une loi d'amnistie générale qui, en fait, pardonne à l'avance à tous les crimes de guerre, tous les crimes qu'ont commis, entre autres, les escadrons de la mort, les militaires, tous ces crimes qui ont endeuillé le Salvador pendant des années. Une immense manifestation a immédiatement réagi à cette décision. Manifestation où se trouvaient énormément de femmes, puisque ce sont elles, comme en Argentine, qui réclament que les coupables de nombreuses disparitions et meurtres soient punis enfin. Oui, Au Guatemala, c'est au contraire une victoire. Hélène McChang, avocate, a réussi, après 29 mois d'acharnement judiciaire, à faire condamner à 30 ans de prison le sous-officier de l'armée guatémaltèque qui a assassiné sa sœur alors qu'elle sortait de son bureau. La victime, Myrna McChang, travaillait en tant qu'anthropologue sur le sort des paysans de retour d'exil. Au cours de l'étude qu'elle réalisait, elle mit le doigt sur le banditisme de l'armée, trafic de cocaïne, expropriation illégale de terres, massacre d'Indiens. Elle en savait trop, il fallait l'éliminer. Un crime parmi des milliers perpétrés depuis des années au Guatemala en toute impunité. C'est dire que la condamnation du coupable est un véritable exploit. D'ailleurs, ce fut très difficile. Sous la pression des menaces, 12 juges se sont récusés. 2 témoins ont dû s'exiler. Un médecin a modifié 2 fois ses déclarations. Un policier honnête, voyant son rapport enterré, a dû revenir à la charge. Il s'est fait assassiner. Le coupable, qui travaillait dans les sphères militaires proches du gouvernement, s'est enfui aux États-Unis. Finalement, des témoins ont trouvé le courage de parler et la juge, Carmen Elguter Figueroa, qui ne passe pourtant pas pour audacieuse, a décidé de condamner ce militaire. Plus de la moitié des hommes de l'État de Bolivar au Venezuela sont stériles, révèle une association non gouvernementale. Une proportion affolante. À titre comparatif, le taux moyen de stérilité masculine est de 20% dans l'ensemble des pays. Et selon des données de l'OMS, quand la stérilité dépasse 25%, c'est qu'il y a un sérieux problème de santé publique. En l'occurrence, le problème est lié au développement de la sidérurgie lourde qui oblige les hommes à manipuler des métaux dangereux à proximité des fours dégageant des températures très élevées. Le Venezuela ne dispose d'aucune politique de l'environnement susceptible de protéger les travailleurs contre les effets nocifs de l'industrialisation. En Pologne, la loi interdisant l'avortement est entrée en vigueur. La nouvelle loi interdisant l'avortement en Pologne, sauf dans les cas de viol, d'inceste, lorsque la vie de la mère est en danger ou lorsque le fœtus présente des anomalies très graves, est entrée en vigueur le mardi 16 mars. Cette loi très controversée, car selon les sondages, la majorité des Polonaises et des Polonais souhaitent conserver la liberté d'avorter. Cette loi donc annule la précédente législation de 1956 qui donnait complète liberté pour l'avortement, à tel point que malheureusement l'avortement était également utilisé comme méthode contraceptive. Plusieurs médecins ont averti du danger des avortements clandestins, tandis que les pages des petites annonces des journaux s'ornent désormais de publicités d'agences de voyage proposant des avortements à l'étranger. Plus préoccupant aussi, le problème des Polonaises enceintes qui se rendent en Suède, car le visa n'est pas nécessaire, y accouchent sur place et remettent le bébé à des parents adoptifs contre une somme d'argent à laquelle s'ajoutent les frais de déplacement et d'hôpital. Aux États-Unis, une forte amende pour des militants anti-avortement. Un juge fédéral a condamné l'organisation anti-avortement Operation Rescue et trois de ses dirigeants à une amende de 282 610 dollars, environ 1,6 million de francs français, pour avoir violé l'interdiction qui leur avait été signifiée l'an dernier de bloquer par la force l'entrée des établissements pratiquant l'avortement. Le metteur en scène Franco Zeffirelli, plus papiste que le pape, à tel point qu'il mérite non pas un chapeau du cochon, mais un chapeau du triple cochon. En effet, il a déclaré, et là je cite, « Je suis convaincu qu'il faut rétablir la peine de mort pour les femmes qui avortent. » Oui. Vous avez bien entendu. Impitoyable, ce metteur en scène, Franco Zeffirelli, qui est à son tour intervenu à Rome dans le débat sur l'interruption volontaire de grossesse. Depuis plusieurs semaines, les attaques contre la loi 194, comme on l'appelle, loi qui autorise l'avortement, se multiplient. Le mois dernier, Jean-Paul II a réaffirmé son opposition totale à l'avortement, sans exception, même pour les femmes bosniaques violées. Plus papiste que le pape, ce célèbre réalisateur, vous vous souvenez du très beau Roméo et Juliette et de Jésus de Nazareth, va plus loin. Il dit « Les positions du Saint-Père sont tièdes ». il faut aller encore plus loin. En réponse à l'archevêque de Bologne, qui avait assimilé l'avortement au délit de la mafia, Zeffirelli a tenu à préciser, je cite toujours, que la mafia n'est rien en comparaison de ceux qui commettent le crime de tuer une personne sans défense. Cette fois, les autorités ecclésiastiques ont trouvé la sortie du cinéaste excessive. Et Livia Turco, responsable des politiques féminines du parti, de l'ex-parti communiste, y voit, je cite, « le témoignage d'un retour à un climat culturel moyenâgeux. Aujourd'hui encore, 65% des gynécologues et plus de 50% des anesthésistes italiens se refusent, comme la loi les y autorise, à pratiquer un avortement. À Rome, le taux atteint 87% des médecins. Résultat, le recours à l'avortement clandestin demeure élevé. En 1991, il aurait concerné 60 000 femmes italiennes. Alors vraiment, triple cochon pour Zeffirelli. Et la seule chose qu'on pourrait faire, en tout cas pour commencer, c'est absolument boycotter ces films. Les taux de naissance dans les pays de l'Est ont dégringolé de plus de 50% depuis la chute du communisme. C'est fini, on ne fait plus d'enfants, c'est que les crèches se font rares et les congés maternité avec garantie d'emploi s'effritent. À Berlin-Est, les femmes sont de plus en plus nombreuses à exiger une stérilisation avec certificat à l'appui, histoire de convaincre un éventuel employeur. En Italie, le chef du gouvernement italien, Giuliano Amato, a révélé qu'il avait l'habitude de laver la vaisselle chez lui lors d'une conférence consacrée à la condition de la femme. Il a précisé qu'il ne cuisinait pas, mais qu'il lavait les assiettes. « Je tiens à faire ces travaux domestiques les plus humbles parce que je ne veux pas subir de chantage psychologique. Ma femme pourrait m'accuser d'avoir choisi la part la meilleure. » Pas bête, hein ? Adulée en pseudo-bonsoir dans Sister Act, respectée pour son engagement politique dans la comédie musicale sud-africaine Sarafina, qui arrive bientôt sur les écrans, l'actrice américaine Whoopi Goldberg vient d'être élue femme de l'année aux États-Unis. Commentaire, je suis une petite bonne femme qui fait ce qu'elle peut. En France, les ministres Kouchner et Lang, respectivement ministres de la Santé et de l'Éducation, ouvrent aux infirmières une voie d'accès aux études médicales. À partir de maintenant, certains diplômés appartenant aux professions paramédicales qui auraient exercé pendant 2 ans leur métier auraient droit à un contingent de places d'admission en deuxième année d'études médicales égal au maximum à 3% du numerus clausus. En Suisse, accueil délirant à Genève pour la nouvelle conseillère fédérale Ruth Dreyfus. Tout cela dans un désordre, une bonne humeur, un irrespect plus féministe que je ne vois. Les femmes sont venues nombreuses pour soutenir leur conseillère fédérale et rappeler que c'est bien l'esprit du 14 juin qui a conduit Ruth Dreyfus au siège de conseillère fédérale. Plusieurs d'ailleurs étaient ou arboraient quelque chose de fuchsia. Car l'important dans cette histoire, ce n'est pas la cuisine parlementaire qui a entouré cette élection, mais cette formidable mobilisation des femmes. C'est cette mobilisation qui a finalement gagné et les femmes sont prêtes à redescendre dans la rue pour défendre leur conception de l'égalité. Voilà. Ruth Dreyfus a d'ailleurs, dans plusieurs interviews, défini quelles seront prochainement ses priorités en tant que chef du département de l'Intérieur. Entre autres, elle s'occupera de l'assurance maladie, où, dit-elle, il faut répartir plus équitablement les charges. Et puis, autre priorité, c'est bien sûr celui de l'environnement. Et là, dit-elle, il y a du pain sur la planche. Quant à la question de l'AVS, et notamment l'âge de la retraite des femmes, pour elle, d'autres pourront infléchir la loi. C'est le rôle, entre autres, du mouvement syndical, des partis et des organisations de femmes. Toujours d'ailleurs à propos de Ruth Dreyfus, j'ai lu dans mon quotidien préféré, Le Courrier, pour ne pas le citer, un long éditorialiste signé Pierre Kolb sur les tâches qui attendent Ruth Dreyfus. Et c'est un long article décrivant tout ce qu'elle va devoir faire. Pour se terminer, et là, j'en reste baba, et je vous demande, d'après vous, est-ce un gag ou une connerie ? Pour terminer, voilà qui fait beaucoup pour un seul homme. Voilà. Dreyfus, d'ailleurs, qui était présente à la fin de la semaine dernière au congrès des femmes de l'Union syndicale suisse. N'oublions pas que Ruth Dreyfus était jusqu'à il y a quelques jours à la tête de cette union des syndicats. Devant donc ces syndicalistes, la conseillère fédérale a revu les rôles entre elle et les femmes. « Je reste des vôtres », a-t-elle dit, « mais j'ai désormais accepté un autre rôle. Je suis en quelque sorte otage dans un groupe qui doit encore beaucoup apprendre sur l'expérience humaine. » Ruth a donc commencé à prendre ses distances avec les syndicalistes et entre autres avec le congrès des femmes de l'Union syndicale suisse. Pas de promesses donc, entre autres sur le report de l'âge de la retraite des femmes à 64 ans, l'égalité complète entre les sexes ou d'autres revendications féminines. Elle a aussi beaucoup parlé de Christiane Brunner. « Je sais, a-t-elle attaqué, que beaucoup d'entre vous attendaient Christiane Brunner et que ces 10 folles journées laisseront des cicatrices, car les choix furent difficiles. Mais durant 3 jours, sous la pression des événements, nous avons tenté ensemble de trouver le bon chemin dans un esprit de respect, de sacrifice, ce défaut des femmes. Ce fut une belle leçon. Nous avons pour la première fois laissé parler les sentiments, la déception, la colère, l'amitié, la confiance qui ont dominé le débat politique. » La nouvelle conseillère fédérale n'a pas caché non plus que les raisons mises en avant par les députés bourgeois pour la choisir lui ont pas beaucoup plu. « J'ai été choisie en fonction d'un style, d'un langage, mais aussi par dépit, parce que ces députés n'ont pas réussi à surmonter leurs fantasmes. Les hommes aiment à réclamer des sacrifices, notamment familiaux, pour autoriser les femmes à entrer en politique. » Aussi croit-il que nous sommes moins dangereuses et plus conformes. Cela me fait mal, malgré tout, car c'est un choix antiféministe. Mais a-t-elle lancé avant de conclure devant une salle debout, « J'ai besoin de vous et je sais que vous avez confiance dans ma volonté d'agir. » Cet effet d'ailleurs, qu'on pourrait appeler presque l'effet Brunner-Dreyfus, a déferlé sur la Suisse à tel point qu'on pourrait dire que la Suisse s'est arrosie à ce printemps, en tout cas une vague féministe, parfois féminine, a déferlé sur la vie sociale helvétique. Femmes syndicalistes, femmes du Parti démocrate chrétien, féministes, le week-end a été marqué par le grand réveil de la cause des femmes. La dernière élection au Conseil fédéral a donc ravivé les ardeurs féministes. Ce week-end, les femmes ont passé à l'offensive sur plusieurs fronts. Réunies entre autres en congrès à Bâle, les femmes de l'Union syndicale suisse, l'USS, ont annoncé le lancement de 2 référendums si les chambres fédérales décidaient de faire passer à 64 ans l'âge de la retraite pour les femmes et de réduire à 70% les indemnités de chômage. Durant 2 jours, les 250 délégués ont débattu d'un nouveau partage de l'argent, du travail, du temps et du pouvoir. Elles ont reçu la visite de Ruth Dreyfus qui a appelé les femmes à poursuivre leur lutte et leurs revendications. Les femmes de l'USS se sont aussi prononcées en faveur de l'introduction de la semaine de 35 heures pour une meilleure protection des femmes dans les conventions collectives de travail. Elles se sont en outre engagées pour l'introduction des quotas pour l'élection au Conseil fédéral. De leur côté, les femmes du Parti démocrate chrétien, le PDC, réunies en séminaire, ont affirmé leur volonté d'avoir leur conseillère fédérale. Si ça continue, ça va être joli le conseil fédéral, on va enfin rigoler. Elles ont demandé au parti de proposer en temps voulu une ou plusieurs femmes comme candidates à la succession de Flavio Coti et d'Arnold Kohler au conseil fédéral. Elles ont aussi exigé une représentation plus équitable, au moins 1/3, des 2 sexes à tous les niveaux et assemblées du parti. Déjà appliquée dans les instances du Parti démocrate suisse, la règle des quotas doit être élargie au plan cantonal, ont revendiqué les délégués. À cet effet, un poste à 50% pour la promotion des femmes sera prochainement créé par la centrale du parti à Berne. Autre réunion à Zurich où les féministes de 7 cantons alémaniques ont annoncé vouloir concentrer leurs efforts en vue des élections au Parlement fédéral en 1995. Depuis quelques temps, on voit fleurir dans plusieurs cantons des listes féminines libres. On en a vu en Argovie, à Bâle, Ville et Bâle Campagne, à Lucerne, à Saint-Gall, à Soleure et à Zurich. Eh bien, toutes ces listes vont, plutôt toutes les représentantes de ces listes, vont s'unir sur le plan national afin de définir une stratégie commune. Ces listes se définissent elles-mêmes comme des groupements indépendants des partis politiques. Ursula Gluck, de la liste féminine de Bâle, a expliqué que les événements de ces dernières semaines ont fortement contribué à ce rapprochement. Selon elle, les remous qui ont entouré la succession de Felber au Conseil fédéral ont prouvé à quel point les listes féminines indépendantes sont nécessaires. Autre conséquence, si on peut dire, ou en tout cas suite de ce feuilleton de l'élection d'une femme au Conseil fédéral, à Genève, discussion dans les partis pour savoir qui serait représentée au Conseil des États. Au Conseil d'État. Eh bien, le Parti socialiste, finalement, a décidé d'écarter Christian Grobet de la course à l'exécutif. C'est Ziegler et Micheline Calmiret qui ont remporté le ticket. Micheline Calmiret s'est présentée en tant qu'économiste et c'est en tant que telle qu'elle a axé son discours. Elle a mis en évidence les dangers d'une société à deux vitesses où les uns auront un travail à plein temps, bien payé, et les autres vivront de petits boulots, de travaux saisonnières, d'indemnités ou d'allocations chômage. Une société où les uns sont intégrés, les autres sont exclus. Une société sans solidarité où le productivisme règne en maître. Pour Micheline Calmiret, la situation politique témoigne de la réalité de ce danger. À Lausanne, une crèche vient de mourir en grande pompe. On a fêté, par une obsèque solennelle, la fin d'une garderie avant-gardiste, la garderie Cendrillon, qui est morte sur son bûcher. Il y a eu un bourreau vêtu de noir qui a fait son office, un chœur qui a entonné un air de Purcell. Et puis, sur la place du château à Lausanne, 300 parents, amis et représentants d'autres garderies sont venus apporter leur soutien, ou plutôt leur souvenir à Cendrillon, cette crèche qui est morte sur le bûcher de la crise, étranglée par la baisse de ses subventions très maigres, par l'augmentation des charges. La garderie, qui avait 17 ans, a dû donc fermer ses portes. D'autres garderies sont menacées par manque de fonds. La question de leur subventionnement par le canton est toujours pendante. C'est un problème culturel, particulièrement en région rurale. On imagine toujours que l'éducation des enfants revient à la femme et les autorités ne se soucient guère des garderies, a déploré Philippe Bieler, ancien président de l'association. Toujours au sujet des crèches, d'ailleurs, il devient de plus en plus difficile de trouver des places. Il faut savoir que 55% des femmes suisses travaillent, alors que les crèches ne répondent qu'à moins de 10% de la population enfantine. Pour avoir une ordre d'idée, dans les grandes villes genevoises, suisses, on compte environ 42 000 bébés âgés d'un jour à 5 ans, alors que les places prévues dans les crèches ne dépassent pas 2 800. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 3.8 MHz. Dans quelques instants, le memento de Marjolaine.
Avant de passer au memento de la musique, des voix de quatre femmes des années 90, et paraît-il qu'elles sont toutes des copines, les Funky Divas.
Je savais pas que c'était si long.
Ah, c'est careful me.